Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 11. Ces versets bien connus de Christ, ces paroles de Christ, l'une des paraboles les plus connues, au verset 11, Luc, chapitre 15, verset 11, il dit encore « Un homme avait deux fils ». Et le plus jeune dit au père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir ». Et le père leur partagea son bien. Et notre sujet est le suivant, l'âme errante. J'aimerais parler à nouveau de ce passage. Je fais ceci tous les 5-6 ans à peu près, parce que c'est une explication si claire du besoin de l'homme et de Dieu qui pourvoit d'une manière extraordinaire pour l'âme des hommes et des femmes. Cette parabole ne pourrait pas être plus claire, plus persuasive, mais c'est essentiel que nous considérions cette parabole. Le Seigneur parle du besoin de la conversion. De venir à lui, c'est une parabole pour choquer et une parabole pour informer. Et souvent, nous lisons cette parabole rapidement et nous ne comprenons pas toute la signification de chaque élément, chaque aspect de cette parabole remarquable. Nous commençons ici avec le verset 11. Je n'aurai pas différents points ce soir, mais je vais aller de verset en verset. Parce que c'est ainsi que nous pouvons réellement comprendre la profondeur de ce passage merveilleux. Au verset 11, un homme avait deux fils. Mais nous en arrivons rapidement au verset 12, aux actions. Et le plus jeune, dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. Ce qui me revient au jour où tu meurs, parce que je suis intéressé par cela. » Quelle insulte envers son père! C'est comme si le jeune homme disait au père, « Je te hais, je te méprise, je ne suis pas intéressé par toi, je ne veux pas être proche de toi. » Et cependant, la parabole indique que c'est un bon père, plein de compassion, qui prend soin de ses enfants. Il n'y a pas de raison pour cette colère, pour cette rébellion. Mais le fils méprise son père et veut simplement la part de son héritage, avant qu'il ne meure. C'est comme s'il disait « Je souhaiterais que tu meures. Ce qui est important, c'est ton argent, et je veux ma part. » Pouvez-vous imaginer ceci? C'est très surprenant, mais il y a un but. Vous voyez que cette attitude est arrogante, et si triste, et insensée. C'est une description de la race humaine. C'est Christ qui nous décrit, nous, qui décrit chaque homme, chaque femme, avant la conversion à Dieu, qui décrit notre attitude envers notre Créateur. Quelle insolence! Je ne suis pas intéressé par mon Créateur, je ne veux pas entendre parler de mon Créateur, je ne veux rien entendre de lui. Je veux mon bien, ma part, mes capacités, ma mémoire, mes capacités intellectuelles, ou peu importe vos capacités, vos facilités, vos dons. Je prends ma santé, mes années, ma vie, et je prends tout ceci et je me fais plaisir. Et je prends tout ce que je peux pour moi-même, la célébrité, l'argent, les richesses, le bonheur, si je le peux, dans tout ce que je veux, en ayant tout ce que je veux, en faisant tout ce que je veux. Je ne suis pas intéressé par le Créateur, ses desseins, son but. Je ne suis pas intéressé par ces choses, mais je le méprise. Je veux uniquement moi-même. Ce que je peux posséder et respirer son air et posséder ce que je peux. C'est la manière dont Dieu décrit l'insolence de l'attitude humaine envers le Dieu Tout-Puissant. Dieu nous décrit dans des termes qui sont si réalistes. C'est là la signification de la parabole et le début de cette parabole. Le plus jeune dit à son père, « Et chers amis, réalisez que cette attitude est si terrible. » Dans la parabole, le père lui donne son bien. Il lui donne les 50% ou peu importe sa part. Il lui donne ce qui lui est dû. Et ceci reflète l'attitude de Dieu dans sa volonté permissive qui nous laisse prendre notre propre chemin pour nous-mêmes. C'est une description du chemin de l'âme humaine. Au verset 13, et peu de jours après, ceci est très important. dès que possible. Le jeune homme est parti, avec ses richesses, avec ses biens. Il n'est pas resté un moment de plus que ce qui était nécessaire. De même pour nous, nous grandissons dans la jeunesse, et dès que nous le pouvons, dès que nous sommes capables de réfléchir par nous-mêmes, nous nous rebellons contre Dieu, nous le méprisons, nous l'ignorons et nous tournons notre dos loin de lui. Cette parabole reflète la rébellion de l'âme humaine. Et peu de jours après, ce plus jeune fils ayant tout amassé, c'est ce que vous et moi nous avons fait, certains jeunes adolescents, et nous sommes tous rebelles de notre nature même. Mais l'hostilité, l'opposition à Dieu, cette opposition constante, peut-être arrive dans les années de l'adolescence. Cette rébellion est là profondément dans le cœur. Et il est allé dans un pays éloigné. C'est intéressant ce terme utilisé. C'est un pays éloigné, décrit littéralement, non pas comme le pays voisin ou le pays voisin de ce pays voisin, mais aussi loin que possible. Il a passé plusieurs frontières pour s'éloigner le plus possible du pays de son père. Pourquoi un pays éloigné? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se faire plaisir dans son propre pays? Est-ce qu'il ne pouvait pas se rebeller dans cette région, faire tout ce qu'il voulait? Voyez-vous, il ne voulait pas entendre parler de son père. Il ne voulait rien entendre de son père. Il ne voulait pas que son père ait des nouvelles de lui. Il ne voulait plus de communication entre son père et lui. Ce doit être un pays éloigné. Et c'est comme nous. Dès que nous tournons le dos à Dieu, nous ne voulons plus entendre parler de Dieu. Un ami vient nous voir et dit « Oh, je vais à l'église. » Et je me dis « Oh, il va à l'église? Est-ce qu'il veut que je l'accompagne? Est-ce qu'il me demande de l'accompagner ?» Et rapidement, je change le sujet. Et peut-être que quelqu'un toque à la porte. Est-ce que je peux parler de la foi de Dieu? Peut-être que quelqu'un vous parle à l'arrêt de bus pour essayer de vous aider et vous pose des questions. Mais vous ne voulez pas discuter. Vous ne voulez pas parler. Vous allez aussi loin que possible de Dieu. Nous ne voulons pas entendre parler de Dieu. Nous ne voulons pas être mis au défi. Et la Bible est un défi pour nous, phrase par phrase, étape par étape. Mais nous allons loin de Dieu. Il est parti dans un pays éloigné, aussi loin que possible des critères moraux de la conduite de la maison de son père. Et là, il dissipa son bien. Nos traducteurs ont utilisé ce terme « dissiper » ou « gâcher » pour traduire ce terme grec qui signifie plus « distribuer ». Dépenser en toute chose. Il a simplement perdu cet argent. Il l'a dissipé. Et de même pour nous, nous perdons la jeunesse. Nous pensons qu'elle va durer pour toujours. Et ensuite, vous avez des responsabilités dans votre vie. Vous avez l'expérience. Vous êtes encore dans la trentaine, quarantaine. Vous avez beaucoup d'énergie et d'expérience. Mais ces choses vont vous abandonner. Et vous, vous dissipez votre vie. Quel est le but de la vie? Quelle est la destination de la vie? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je suis créé? Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le but? Mais aucune pensée pour Dieu. Et toute votre force, votre jeunesse, vos années, votre expérience, tout passe si rapidement. C'est un terme extraordinaire. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. À nouveau, en grec, c'est un terme un peu différent, qui peut être traduit également sans inhibition, sans faire attention, sans se restreindre. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais s'il y a un Dieu? Est-ce que je construis une barrière contre lui? Et tous mes péchés, qu'en est-il de mes péchés? Nos traducteurs traduisent par « vivant dans la débauche ». Après qu'il eut tout dépensé. Vous pourriez traduire ceci « quand tout a été dévoré », ce terme « dévoré » en grec. Après qu'il eut tout dépensé, vous ne dépensez pas votre jeunesse, vos années, vos dons, votre vie, vos biens. Vous ne les dépensez pas volontairement. Le monde autour de vous, la société, vous dévore tout ceci. Tout ceci est dévoré. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas un homme, une femme de prière, si votre vie n'a pas été transformée et fortifiée par Dieu, Tout est dévoré petit à petit. Tout vous est ôté. Ce monde va tout vous prendre et vous laisser âgé dans la vieillesse avec plus aucun rêve, déçu, pas d'avenir éternel avec Dieu. Le monde va tout dévorer. Et nous, nous vivons comme si notre caractère ne se détériorera jamais, ne changera jamais, et que les années ne vont jamais passer. Mais les années vont passer et le caractère va s'empirer. Après qu'il eut tout dépensé. Au verset 14, il est arrivé à ses limites. Les circonstances interviennent. Chers amis, que ce soit ainsi pour vous, des circonstances pour intervenir dans votre vie, pour vous amener à lui. Et écoutez ce qu'il se passe pour le fils prodigue. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine. Ce terme original signifie la destitution. Il survint une grande famine, plus rien dans ce pays, et il commença à être dans l'indigence, dans le besoin, un besoin désespéré. Les circonstances l'ont amené au bout de lui-même. Que fais-tu ici, dans cet endroit? Que se passe-t-il dans ta vie? Mais au départ, même s'il était désespéré et prêt de mourir de faim, il essaye encore de résoudre le problème lui-même, au lieu de retourner à la maison, comme nous. Il essaye désespérément de trouver un travail, au verset 15, et s'en étant allé, c'est son initiative, il se mit au service d'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses terres paître les pourceaux. Souvenez-vous du contexte de ceci. C'est là une parabole qui est enseignée aux Juifs, pour qui ceci était quelque chose de terrible, de paître les pourceaux. Vous ne pouviez pas faire un travail plus méprisant. Ceci ne pouvait pas être pire dans leur culture que de faire ceci. Et le fils prodigue est si désespéré. Le mieux qu'il puisse trouver, c'est de paître les pourceaux. Et qu'est-ce qu'ils avaient, eux, dans ce temps de famine? Les carouges. Au verset 16, « Et il eut bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. » Pensez un peu à ceci, chers amis. Quand le jeune homme est allé dans ce pays lointain, il s'est dit, « C'est mon environnement, c'est là que je vais réussir. Je vais me faire plaisir. C'est un endroit extraordinaire. Les gens sont des bonnes personnes. Il y a la liberté absolue. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux oublier la maison de mon père. Je peux faire tout ce que je veux. Un endroit merveilleux. À présent, plus personne ne veut de lui. Plus personne ne va lui donner dans son désespoir à manger. Et il devient malade. À ce moment-là, il n'y avait pas la médecine. Il n'y avait pas d'aide médicale. Mais un homme qui a faim et commence à être faible, peut-être que ses vêtements sont devenus des haillons, mais personne ne l'aide parce qu'ils ont le cœur dur dans ce pays lointain. Il l'envoie pour paître les pourceaux et personne n'a pitié de lui pour l'aider. Pas d'affection pour lui, pas de conseil, pas d'aide. À présent, il découvre la réalité et la vérité par rapport à ce pays éloigné, un pays si terrible. Et ceci se réfère à notre expérience. N'écoutez pas les prédicateurs et ne vous intéressez pas à la religion, ne lisez pas la Bible et ne croyez pas qu'il y a un Dieu, c'est un monde qui est merveilleux. Et rapidement vous en arrivez au moment où vous commencez à comprendre les problèmes et les promesses que le monde ne peut pas garder et les déceptions et la cruauté et l'orgueil et l'égoïsme du monde. Oh, Dieu est bon. Et à laisser un peu d'amour dans le cœur des gens pour que le monde ne soit pas complètement invivable. Et vous commencez à comprendre la réalité. Et vous n'avez pas d'explication pour votre existence. Et vous vous demandez où vous allez, quel est le but. Et vous êtes déprimé, profondément déprimé, plein de doutes. Et ceci se reflète dans cette parabole, au verset 17. « Étant donc rentré en lui-même. » Quelle phrase extraordinaire! Il est rentré en lui-même, il s'est réveillé, il a retrouvé son bon sens. Il s'est réveillé, ses yeux se sont ouverts, il a compris la réalité d'un monde matériel, athée, d'une société incrédule. et il a compris que ceci n'avait aucun but, et la vie humaine est si courte. Étant donc rentré en lui-même, pensez à cet enfant dans un avion. L'avion a été piraté et tout le monde est terrifié. Et les hommes qui ont piraté cet avion étaient des hommes durs et ils faisaient du mal aux gens. Et ils tiraient avec une arme. Et il y avait un enfant dans cet avion qui était trop jeune pour comprendre. Il était heureux et il rigolait tout seul. C'est comme nous. Nous pensons que ce monde est merveilleux, une vie merveilleuse, et qui continue pour toujours, que tout va bien, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Et c'est la même chose que cet enfant. Et quand j'étais jeune, un jeune garçon, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous vivions dans un endroit qui était près de la rivière de la Tamise. Et je me rappelle que dans notre maison, on avait un voisin d'une maison d'à côté, qui était un professeur bien connu. Mais il était somnambule. Souvent, on le voyait dehors, dans la nuit, et il marchait dans le jardin, dans son sommeil. Une nuit, il y avait une tempête extraordinaire, avec du tonnerre et des éclairs, et la rivière est montée, et cet homme était dans son jardin en pyjama, et le lendemain, son corps a été retrouvé dans la rivière. Il était somnambule, et même au milieu de tout le bruit de cette tempête, il est allé dans la rivière, il a perdu sa vie, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes somnambules dans notre vie, nous ne comprenons pas les réalités spirituelles, nous ne réalisons pas que nous avons un Créateur, un Dieu. Et un jour, nous devrons rendre compte devant lui, le juge de toute la terre, nous ne réalisons pas que nous sommes là pour une période. Pour le chercher, pour le trouver, pour le connaître, pour l'expérimenter et pour nous glorifier en lui. Combien nous sommes insensés en nous confiant dans un monde qui a chuté loin de Dieu. Nous ne comprenons pas notre besoin spirituel, la société qui est loin de Dieu. Nous ne comprenons pas le chemin du salut et ce que Dieu a fait en Christ qui est venu dans ce monde pour souffrir, pour mourir, pour prendre la condamnation du péché à la place de tous ceux qui lui appartiennent. Qui se tourne vers lui. Tout est là dans cette parabole. Étant donc rentré en lui-même au verset 17, il dit « Combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. » Il a commencé à réfléchir. Les serviteurs, il les méprisait auparavant. Quel homme insensé! À présent, il réalise qu'ils ont bien plus que lui. Ils ont la sécurité, ils avaient la faveur du maître, ils avaient du pain, de la nourriture, ils étaient en sécurité, ils avaient un abri, un toit sur la tête. Aussi je pouvais être l'un d'entre eux. Si vous êtes inconverti, oh je ne veux offenser personne par ce commentaire, mais réfléchissez à ceci. Si vous n'êtes pas converti, vous pourriez être brillant, intelligent, et vous pouvez avoir tant de dons. Être si capable, plein de talents extraordinaires, pouvait être si intelligent. Mais savez-vous, le chrétien le plus simple, qui croit en Christ et qui est venu à lui, même si cette personne n'est pas éduquée, même s'il n'a aucun avantage dans ce monde, s'il vit dans un endroit qui est désespérément pauvre, il a plus que vous, parce qu'il a la communion avec Dieu. Il a la paix dans son cœur et tous ses péchés sont pardonnés. Il a la compréhension de la signification de la vie. Il a un but. Il a une nouvelle nature. Il a une destinée éternelle merveilleuse. Il a bien, bien, bien plus que vous, même si c'est le croyant le plus pauvre que vous pouvez rencontrer. Combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Aussi seulement je pouvais expliquer la joie du cœur d'un chrétien qui connaît Dieu, qui marche avec lui. Il se dit, moi, je meurs de faim. Et il a compris qu'il allait mourir, je meurs de faim. Si seulement nous comprenions ceci, nous allons mourir. Vous allez vous tenir devant Dieu et rendre compte, je meurs de faim. Non pas empoisonné, non pas par balle, non pas d'une avalanche. Je meurs de faim, la faim de mon âme. Je n'ai jamais été béni, je n'ai jamais reçu la nouvelle naissance, la nouvelle nature de Dieu. Je n'ai jamais eu la communion avec Dieu, je n'ai jamais eu de nourriture spirituelle, de compréhension. Je meurs de faim. Et nous devons en arriver à la fin, au verset 18. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père, je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché. » Il réalise que c'est la seule manière, c'est de retourner vers son Père, de se repentir de sa rébellion. « J'ai péché contre le ciel, contre les choses spirituelles, toutes les réalités spirituelles. Je les ai méprisées, je les ai rejetées. Et contre toi, je t'ai offensé, ô Dieu, je t'ai insulté. Je t'ai mis de côté et rejeté. Quelle chose terrible. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je n'ai aucun mérite en moi-même. Je ne mérite rien. Pardonne-moi et je vais t'obéir. » Et il partit donc au verset 20 et vint vers son père. À présent, chers amis, voici la chose la plus extraordinaire dans cette parabole. Et vous devez suivre ceci. Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, comment est-ce qu'il a fait ceci? Pardonnez-moi d'élaborer un peu, mais il est émacié, il est en haillons, il est faible et malade, et il meurt de faim. Comment est-ce qu'il peut passer d'un pays à l'autre, et puis dans le pays d'à côté, et encore un autre pays? Ce voyage si long pour rentrer à la maison, peut-être que quand il est arrivé, il pouvait avoir une monture, peut-être un cheval, peut-être même quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider. À présent, il est seul et il a faim. Comment est-ce qu'il peut faire ceci? Il ne peut pas. Et le récit nous dit la suite. Écoutez ceci. Et comme il était encore loin, ceci, c'est pas simplement au coin, près de la maison de son père. Il a commencé le chemin, le voyage, mais il ne pouvait pas, dans sa condition, voyager. Mais son père, qui est le Dieu Tout-Puissant, la parabole nous montre la réalité. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Aucune personne dans ce pays éloigné n'avait compassion de lui, mais son père a eu compassion de lui. Et il a couru, il a eu cette réponse instantanée. Et de même pour la conversion, vous venez sincèrement vers le Seigneur. Vous lui confessez votre péché, vous vous confiez en Christ qui est mort à la croix du calvaire pour les pécheurs qui se repentent. Et instantanément, Dieu entend votre prière et vous reçoit. Et le Père ici, il court et il se jette à son cou, il l'embrasse. Il lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il pouvait à peine dire ces paroles que le Père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe. » Quand nous venons à Dieu, que nous prions dans la repentance, que nous lui demandons la vie nouvelle, le pardon, alors il purifie nos péchés et il nous impute la justice parfaite de Christ. Et il nous revêt de sa justice comme un vêtement. Et quand Dieu nous voit, il voit la justice de Christ et il nous bénit pour ce que Christ a fait. Nous appelons ceci la justification. Apportez la plus belle robe et l'en revêtez et mettez-lui un anneau au doigt. C'est l'anneau du Fils. À présent, tu es un fils et des souliers aux pieds. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la pauvreté. Et il reçoit les richesses du Père. Il n'est plus pieds nus comme un mendiant. C'est ainsi qu'il est arrivé à la maison. Mais à présent, il est vêtu et enrichi. Il reçoit les richesses et le vêtement. Et amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Et nous concluons avec le verset 24. « Parce que mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était mort spirituellement. Et c'est là, nous, nous sommes loin de Dieu, errants, et il nous donne une vie nouvelle. Il était perdu éternellement, et il est trouvé par Dieu, et ils se sont réjouis. C'est là, chers amis, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le salut est entièrement libre. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous pouvons uniquement nous repentir et nous confier en Christ et nous donner à lui. Cette grâce, John Newton dit, « Ô grâce merveilleuse et précieuse qui a sauvé un homme misérable tel que moi, j'étais perdu, mais j'ai été trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Et ce sera votre expérience également. Tout le monde est un fils prodigue. Tout le monde est loin de Dieu. Jusqu'au jour où il retourne vers Dieu, que Dieu vous envoie dans votre vie des circonstances. Ou un ami qui vous dit qu'il a trouvé Christ, quelque chose pour vous amener à réfléchir, que le Saint-Esprit œuvre dans votre cœur pour que vous puissiez réaliser votre besoin désespéré du pardon, de l'amour de Dieu, et qu'il puisse vous transformer, vous changer, si vous êtes repentant, et que vous le cherchez, qu'il puisse vous transformer pour la vie et pour toute l'éternité. Prions ensemble. Ô Dieu notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions. Montre-nous la signification de ces choses. Parle à nos cœurs. Amène-nous à toi. Que personne ne soit perdu parmi nous quand nous pensons à la miséricorde de Christ, à son agonie, à sa mort à la croix du calvaire pour sauver les pécheurs. Ô Seigneur, écris ces choses dans nos cœurs et œuvre dans nos cœurs pour que nous puissions venir à toi et nous donner à toi et te chercher, te trouver et t'aimer et te connaître. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.